France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Mis à mort près de 6 millions de juifs d'Europe par l'Allemagne nazie et ses collaborateurs. Il a fallu du temps pour que naisse, pour que se cristallise la mémoire de la Shoah, plusieurs décennies, pour qu'elle devienne une pièce entière et singulière de notre mémoire collective. Aujourd'hui, 80 ans jour pour jour après l'ouverture du camp d'Auschwitz, il faut un engagement de chaque instant, une attention particulière pour lui permettre de survivre dans sa vérité complexe, entière et singulière. À l'heure où disparaissent ses rescapés, ses revenants, ses victimes plus larges, comment faire vivre, comment transmettre la mémoire de la Shoah aujourd'hui et pour l'avenir. Pour en discuter, deux invités ce soir. Alexandre Bande, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, professeur en prépa au lycée Janson de Sailly. Vous êtes intervenant au mémorial de la Shoah, membre également de la commission enseignement de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et vous venez de publier Auschwitz 1945 aux éditions Passé Composé. À vos côtés, face à vous même ce soir, Pierre-Jérôme Biscara, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, référent régional mémoire de l'Office national des combattants et victimes de guerre. Vous êtes ancien directeur pédagogique à la maison d'Izieux, puis de l'association Yahad in Unum. Vous avez publié Izieux, des enfants dans la Shoah. C'était chez Fayard en 2014. Et tous les deux, ensemble, vous avez co-dirigé deux ouvrages, Nouvelle histoire de la Shoah, c'était aussi chez Passons, chez Composé en 2021, et Histoire politique de l'antisémitisme en France, qui a paru l'an dernier aux éditions Robert Laffont. Merci à tous les deux d'être présents ce soir dans Question du soir. Et l'on va bien sûr parler durant 40 minutes de mémoire collective, mais un mot tout de même sur votre mémoire individuelle, personnelle de la Shoah. Qu'est-ce qui a forgé à l'un, à l'autre, votre perception de la Shoah? Comment cette mémoire dans votre histoire personnelle vous est-elle parvenue, vous a-t-elle traversé, vous habite encore, Alexandre Bande?
Bien, écoutez, je pense qu'il y a deux phénomènes et je vais tenter de répondre rapidement à une question complexe finalement. Le premier phénomène, c'est une mémoire familiale, non pas sur cette question de la souffrance des Juifs d'Europe, puisque dans ma famille, il n'y avait pas cette mémoire-là, mais la mémoire de la concentration, de la déportation et de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale était très présente. Donc depuis mon plus jeune âge, j'ai été baigné dans cette histoire qui m'a amené en tant qu'enseignant d'histoire depuis bientôt 39 ans, à travailler avec mes élèves de collège, de lycée, de prépa, sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et donc à fortiori de travailler sur l'histoire de la Shoah. Et donc il y a déjà ce premier contact. Le second, qui est arrivé bien plus tard, parce que j'ai soutenu une thèse d'histoire médiévale il y a fort fort longtemps, c'est quand j'ai voulu aller au début des années 2000 avec mes élèves du lycée Condorcet sur ce lieu de mémoire qui était à Auschwitz, que je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de choses que je croyais connaître et que je ne connaissais pas. Et donc à force, ça fait bientôt 20 ans, c'est ce que je dis au début de mon livre, que je travaille sur ce sujet, que j'accompagne des groupes, que je rencontre des historiens, des survivants, et que progressivement, cette histoire, je l'ai faite, non pas mienne, mais je m'en suis emparé, et que la mémoire qui découle de cette histoire, je tente de la transmettre.
Pierre-Jérôme Biscara.
Alors, sur le plan personnel, moi j'ai une mémoire familiale qui est liée à mon grand-père maternel qui était prisonnier de guerre à Rawa-Ruska. Il se trouve que Rawa-Ruska, c'est pas très loin de Belzec, du camp, du centre de mise à mort de Belzec. Et en fait, mon grand-père ne m'en a jamais parlé, c'est ma mère qui m'en a parlé. Et je pense que ça jouait quelque chose de structurant, mais plutôt après la vingtaine en fait. C'est arrivé sur le tard. Mais avant, c'était plutôt, je vais remonter au procès Barbie, 1987, mai-juillet 87, le procès Barbie. Et tout de suite après le verdict du procès Barbie, il y a la diffusion en plusieurs parties, le soir, de Shoah de Claude Lanzmann. Et je pense qu'à la fois ce procès dont tout le monde nous parlait, et ce que j'avais entreaperçu de Shoah de Claude Lanzmann a joué un rôle absolument déterminant.
Il faut dire peut-être tout de suite, Pierre-Jérôme Biscara, comment ce procès-là, hein, celui de Klaus Barbie, qui avait effectivement été le monstre de Lyon, comme on l'appelle parfois, comment que ce procès-là a transformé, redéfini même la mémoire de la Shoah en France à la fin des années 80?
Oui, parce que à la fois on va découvrir effectivement celui qu'on appelait le boucher de Lyon, mais plus pour l'histoire en fait de la, enfin plus pour sa répression sur la résistance que sur l'histoire des enfants d'Izieux. En fait, quand il revient en France, enfin quand il est expulsé de Bolivie vers la France et qu'il est jugé en 87, on l'attend sur Jean Moulin, mais Jean Moulin c'est un crime de guerre et en fait au bout de 20 ans, voilà, c'était terminé. Par contre, sur, par exemple, le crime des enfants d'Isieux, c'était imprescriptible, et c'est ce qui va jouer au moment du procès Barbie, le crime des enfants. Et mais, paradoxalement, on va aussi parler à côté de Klaus Barbie, qui est le responsable de la Gestapo de Lyon, du rôle de Vichy dans la déportation des Juifs de France, puisque, par exemple, les enfants d'Isieux, avant d'arriver à Isieux, ils sont dans les camps d'internement français, vous voyez. Donc on a cette double mémoire, en fait, à la fois la mémoire, on va dire, de la Gestapo et la mémoire de Vichy avec son implication dans la déportation, et en l'occurrence là d'enfants juifs.
Je voudrais vous faire entendre la voix de lycéens. Ils visitaient le 21 novembre 2021 le camp d'Auschwitz-Birkenau. C'est un reportage signé de nos confrères de France 3.
C'était traumatisant pour les enfants, être arraché des familles, être gazé avec tout le monde, entendre les parents crier, tout ça, être trié, voir peut-être le père qui part travailler et eux partir avec la mère, plus jamais revoir leur père, voilà, c'est...
En voyant cette image d'escalier, mais ça m'a complètement bouleversée en fait, parce que je me dis que bah, il y a des adolescents comme nous qui sont passés par là et qui sont jamais ressortis, alors qu'ils ont, ils ont rien demandé, quoi. Donc je trouve ça super marquant et on s'identifie complètement à eux.
J'ai des frissons depuis le début, depuis que j'ai passé le portique. Quand j'étais loin, je ne me rendais pas compte que c'était aussi grave. Là, on sent la mort, quoi.
Honnêtement, je me sens vraiment immergée dans cette atmosphère et j'en perds les mots. Enfin, c'est très, très, très bouleversant. J'ai plus les mots et... Je me sens désemparée face à tout ce qui s'est passé. J'en ai les larmes aux yeux. C'est très, très, très fort.
Il restait en 2024 245 000 survivants de la Shoah. 21 900 vivaient encore en France. Et alors que naturellement leur nombre diminue, Alexandre Bande, quels sont les enjeux principaux aujourd'hui de la transmission de la Shoah alors que le nombre de victimes directes disparaît?
Les enjeux, ils sont multiples. Ils sont liés à la disparition, comme vous le disiez, des derniers survivants, qui peuvent encore nous raconter ou qu'on racontait déjà beaucoup de choses et qui touchent beaucoup les jeunes ou les publics qu'ils rencontrent régulièrement. Il y a la question des programmes scolaires qui est très importante et nous sommes dans un pays où malgré leur caractère parfois critiquable, mais on est dans un pays où on enseigne la Shoah en CM2, en 3e et en terminale, ce qui n'est pas le cas de bon nombre de pays du monde. Donc on peut se dire que même s'il y aurait certainement mieux à faire, on a déjà cette chance de pouvoir se dire que les générations à venir, tant que les choses ne bougent pas, pourront continuer à entendre parler de ce programme et de cette histoire. Le troisième élément qui est essentiel, alors en France on le voit depuis des années, ça bouge et dans le monde un petit peu aussi, c'est la pérennisation des lieux de mémoire, la sanctuarisation de certains espaces qui nous sont chers à Pierre-Jérôme Biscara et à moi, ceux d'Auschwitz, mais pas seulement, avec, on le voit en France, la gare de Bobigny, on le voit avec la gare de Pithiviers, des choses qui ont été, enfin, les endroits qui étaient liés à la mémoire des Juifs de France qui ont été mémorialisés il y a très peu de temps. Et sur ce plan, je trouve qu'en France, il y a des choses qui se font. Dernière chose, pour pas être trop long et accaparer la parole, un des enjeux importants, au-delà de ces aspects importants, c'est que l'historiographie continue à avancer, à progresser, mais, et on pourra peut-être en reparler, c'est que tout est suspendu aux évolutions de notre monde politique. Et on le sait très bien, la politique détermine peut-être pas la mémoire individuelle, mais la mémoire collective. Et sur ce point, je n'ai pas de capacité de visionnaire. Tout ce que je sais, c'est qu'en fonction des évolutions des années à venir, certaines informations ou certains lieux de mémoire pourraient potentiellement être remis en question.
Pierre-Jérôme Biscara, je voudrais qu'on décortique chacun de ces quatre enjeux. Les survivants, d'abord, pour commencer. Qu'est-ce que ces survivants apportait aujourd'hui concrètement justement dans cette mémoire? À quel point la rendait-il vivante, et ce malgré leur âge avancé?
C'était une mémoire vivante, il y avait un lien presque souvent affectif entre les élèves et ses témoins. Et c'est sûr qu'on perd, avec la disparition des témoins, on va perdre cette mémoire vivante, bien évidemment. Donc c'est... Mais ça n'empêchera pas le travail de mémoire de se poursuivre.
La Shoah entre donc dans l'histoire avec la mort, avec la disparition progressive de ces rescapés, de ces survivants.
Oui, elle rentre un peu plus dans l'histoire, mais il reste, et de toute façon c'est inéductable, mais il reste quand même la force des lieux, il reste la puissance de l'art aussi, il reste la littérature, le cinéma, la musique, la peinture pour transmettre, et je pense principalement à la littérature notamment, aux grands textes. Voilà, on peut penser à Vassili Grossman, à Ron Appelfeld, Stefan Zweig aussi. Donc on peut aussi transmettre cette histoire avec à la fois les lieux et à la fois avec l'art.
Alexandre Bond.
Oui, je voulais juste rebondir sur les témoins. C'est que les témoins et les survivants de ce crime de masse ou ceux qui ont échappé en tant qu'enfants cachés ont été bien plus que des acteurs d'autres périodes de l'histoire. L'objet de l'intérêt de nos contemporains, ce qui veut dire qu'il existe une banque de données considérable de témoignages enregistrés, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour les survivants même de Omaha Beach ou des combats de la Seconde Guerre mondiale. On a beaucoup moins de traces orales qu'on en a par le biais de la Fondation Spielberg, Mémoire de la Shoah, de l'INA, de... Voilà, donc moi je fais partie de ceux qui pensent que c'est dramatique de les voir partir parce que nous on les connaissait et on les aimait beaucoup, mais que l'histoire et la mémoire de la Shoah ne vont pas périr avec les derniers survivants.
Quand on parle de la force des lieux, justement, il faut aussi préciser que beaucoup de ces rescapés, beaucoup de ces survivants accompagnaient les élèves, la nouvelle génération sur ces lieux. C'était plus qu'un témoignage, c'était aussi un lien avec les endroits où la Shoah s'est déroulée, la Shoah s'est passée.
Oui, tout à fait. C'est certain que quand vous étiez, moi je me souviens très bien de Michel Feldman, un survivant du ghetto de Lodz, ou Esther Seno, ou d'autres, Yvette Lévy, qu'on a connu également sur site, quand il vous disait là, à cet endroit-là, il m'est arrivé ça, forcément, vous avez beau connaître un certain nombre de choses, les élèves ont beau être attentifs à votre propos, là il se passe quelque chose de très important. Cette force du lieu, c'est le lieu, comme a dit un des témoins du Shoah de Lanzmann, c'est quelque chose qui nous intéresse, Pierre-Jérôme Biscara et moi, depuis longtemps, et on l'a vu sur site, et c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne pourra plus se produire.
Moi j'ai le souvenir là, d'un témoin clé du procès Barbie, qui était Simone Lagrange, Simone Cadoche, avec qui j'ai eu la chance, il y avait Olivier Lalieu, Annette Vivorcas, donc en avril 98, d'aller à Auschwitz avec Simone Lagrange. Et c'est vrai que ça a été, je pense que ça a déterminé tout ce que j'ai pu faire depuis. J'en ai encore des souvenirs. Et l'année suivante, j'étais avec Marcello Pezzetti, l'historien italien, et le père Patrick Desbois, avec Shlomo Venezia, qui était un des rares survivants des Sonderkommando. Et je me souviens de ces deux années, effectivement, comme extrêmement structurantes. Effectivement, ça, on ne l'aura plus, on n'aura plus cette étincelle pour... Voilà.
La voix de Simone Veil qui prononçait le 27 janvier 2005, il y a 20 ans, pour les 60 ans de la libération d'Auschwitz. Un discours dont je voudrais que vous entendiez un extrait, c'était au mémorial de la Shoah.
Le temps, comme j'ai dit, viendra où nos enfants et nos petits-enfants, qui nous ont souvent interrogés, disparaîtront à leur tour. Et nous espérons que nos descendants, longtemps encore, se souviendront comme les Juifs, chassés d'Espagne et du Portugal, ont su préserver la mémoire et la langue de leurs ancêtres. Devant ce mur passeront des classes d'élèves, des jeunes dont beaucoup n'auront sans doute jamais entendu parler de la Shoah, à moins que l'école, comme elle le fait depuis quelques années, assume pleinement sa mission d'enseignement de l'histoire. Car la mémoire de la Shoah ne peut pas être seulement portée par les victimes et par leurs descendants.
Qu'est-ce qui a changé, Pierre-Jérôme Biscara, en 20 ans, entre ce que dit là Simone Veil et peut-être la réalité du travail de mémoire aujourd'hui ?
Alors moi, je pense que le travail de mémoire, en fait, ce qui a changé, c'est surtout que ça s'est amélioré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un bon nombre de lieux qui parlent de la Shoah. Par exemple, moi qui travaille pour l'Office national des combattants et victimes de guerre, et au département mémoire et citoyenneté, on a en gestion deux lieux, le mémorial du Struthof, où il y a une partie de cette histoire qui est liée à l'histoire de la Shoah, et le mémorial de Montluc, voilà, de la prison de Montluc, où évidemment il y a la mémoire de la résistance, mais vous avez aussi la mémoire de la Shoah. Donc vous avez des lieux qui sont structurés, vous avez des lieux où il y a des services pédagogiques, vous avez des historiens qui ont fait leur travail de recherche. Et je crois qu'il suffit de regarder l'actualité, mais tous les ans, autour de l'histoire de la Shoah, c'est colossal, que ça soit en France ou en Europe. On a des enseignants qui sont quand même, je pense, très bien formés sur ces questions-là, et de mieux en mieux. Et moi, je pense que cet enseignement et cette mémoire, elle a, je dirais pas qu'elle a de beaux jours devant elle, mais en tout cas, elle a les armes pour s'inscrire dans le temps.
Comment est-ce que vous le mesurez, ça? Est-ce que c'est en discutant avec des enseignants, avec des élèves, avec justement des citoyens lambda, si je puis dire, qui vous transmettent cet intérêt particulier qui demeure pour la mémoire de la Shoah? Comment est-ce que vous le mesurez?
Je laisserai la parole ensuite à Alexandre, parce qu'on a une expérience commune. C'est par la pratique sur le terrain, en fait. C'est d'emmener des élèves de lycée professionnel. Avant le Covid, j'avais, justement, avec le père Patrick Desbois, emmené des élèves à Minsk, en Biélorussie, lycée professionnel, vous voyez. Donc, d'emmener les Técagneux de Janson-de-Sailly à Auschwitz et autour d'Auschwitz. C'est toutes les actions pédagogiques que l'on fait autour de la mémoire de la Shoah, et de voir que quand on s'investit, quand on travaille beaucoup, globalement, ça fonctionne. Moi, j'ai pas de souvenir en plus de 20 ans d'expérience pédagogique d'échecs majeurs sur la transmission de la Shoah, que ça soit en France, à Auschwitz, en Ukraine, en Biélorussie, et avec vraiment tout type de public, j'entends. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne.
Pourtant, Alexandre Bande, beaucoup disent parfois, c'est un discours médiatique régulier, on entend qu'il est de plus en plus difficile, je mets des guillemets autour du terme, de transmettre cette mémoire, que les enseignants s'auto-censurent, qu'il est difficile de communiquer des informations justes, véridiques, sur la Shoah. Vous êtes en désaccord avec ce type de discours-là?
Alors, moi, je suis un peu moins optimiste que mon ami Pierre-Jérôme Biscara sur la question de l'impact que cette mémoire peut avoir sur les jeunes aujourd'hui et sur notre société. C'est-à-dire que, comme tu le disais, Pierre-Jérôme, quand le projet est bien préparé, quand les professeurs sont bien formés, quand ils suivent les formations du Mémorial de la Shoah ou d'autres structures, quand ils savent où ils vont et quand ils sont accompagnés par des élèves qui ont envie d'aller là où on les amène, donc c'est déjà pas mal de paramètres qui sont pas toujours évidents, il y a de fortes chances que les choses se passent très bien. Mais pour être très clair, on le sait quand même, et on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais il y a quand même un certain nombre d'endroits ou un certain nombre de classes où, lorsqu'on aborde ces questions de la mémoire du génocide dont les Juifs ont été victimes, il y a parfois des tensions, parfois il y a des remises en question. J'en ai jamais été moi-même directement la cible, parce que je pense que ça vient justement de la manière dont les choses sont enseignées. Et moi, j'interviens modestement également à l'INSPE de Paris pour intervenir devant des professeurs d'histoire-géographie qui viennent d'être nouvellement diplômés, et je me rends compte que quand je leur demande la dernière fois qu'ils ont entendu parler de la Shoah, c'est au lycée quand ils étaient eux-mêmes élèves. Mmh. Donc je pense qu'un des gros enjeux, c'est de continuer à former des enseignants capables de gérer des classes qui sont pas toujours, moi je pense qu'il faut être très clair, pas tomber dans la caricature. On enseigne la Shoah et ça se passe très bien dans beaucoup de classes, et quel que soit le quartier ou la ville dans laquelle les choses se passent. Mais en même temps, si on veut que les choses se passent bien, il faut avoir des enseignants et enseignantes capables de répondre à des questions, capables de répondre à des provocations. Donc je pense qu'il faut... Il faut raison garder, et que dans les années qui viennent, vont se jouer des choses importantes et sur lesquelles, moi, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de prise.
Pierre-Jérôme Biscara.
Oui, en fait, la difficulté d'enseigner l'histoire de la Shoah, mais en fait, ça n'a jamais été facile d'enseigner l'histoire de la Shoah. Et il y a des moments peut-être un peu plus que d'autres, mais c'est un enseignement qui est difficile. Vous voyez, moi, à l'ONAC, on travaille sur la mémoire des conflits du XXe siècle. Dedans, il y a les mémoires de la guerre d'Algérie, la mémoire de la guerre d'Indochine, évidemment la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, et dans la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, les mémoires de la résistance, les mémoires de la Shoah. Ça n'a jamais été facile, mais il me semble qu'en tout cas pour la mémoire de la Shoah, on est quand même de mieux en mieux outillés. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile, mais de toute façon, l'éducation, ça a toujours été un pari, et on peut pas dire que l'on ne... ce qui est pas ce que tu dis, Alexandre. On ne part pas de rien, et il me semble que aujourd'hui les formations qui sont dispensées, notamment par les différents mémoriaux, dont le Mémorial de la Shoah, sont des formations qui fonctionnent remarquablement bien avec les plus grands spécialistes. Et Tal Brutmann intervient d'ailleurs dans ces formations.
Tal Brutmann qui sera notre invité un peu plus tard dans cette émission à 19h.
Exactement, et on peut faire le pari que ça, on peut faire quand même le pari que ça fonctionne. Mais pour répondre à votre question sur qu'est-ce qui vous fait dire que c'est faisable, c'est quand même qu'en presque 25 ans de travail de mémoire avec les scolaires, à aucun moment donné je me suis dit la partie est perdue. Voilà. Et j'ai vu passer vraiment des centaines et des centaines d'élèves, et ce que je remarque, puisque Enfin, voilà, je formule le pari que ça fonctionne et on a quand même des indicateurs qui nous permettent de dire que la situation est loin d'être désespérée.
Je voudrais vous faire entendre la voix d'une survivante, vous la connaissez, Ginette Kolinka, elle a 99 ans, elle s'exprimait sur France Inter dans la matinale, c'était il y a quelques jours.
Je ne pouvais pas raconter ce que j'avais vécu alors que je suis la seule de toute la famille à être rentrée. Et je vais tuer deux fois les gens qui sont morts avec moi. On a énormément souffert. Et moi, je vais raconter à des enfants et à des parents. Ils savent que leurs parents sont morts. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Et moi, je vais leur donner des détails de tout ce qu'ils ont pu subir avant de mourir. Et ça serait méchant de ma part. Et j'ai pas envie de le faire, et je l'ai pas fait.
Alexandre Bande, comment est-ce qu'on intéresse la jeune génération des élèves? Quel est, le point d'entrée pour transmettre cette mémoire de la Shoah? Est-ce que ce sont les détails de ce qui s'est passé? Est-ce que c'est l'horreur dont il faut rendre compte? Ou est-ce que c'est bien autre chose?
Moi, je pense qu'il y a deux écueils quand on enseigne cette histoire, c'est de l'édulcorer et de vouloir justement éviter de choquer le public, tout en sachant à quel niveau d'âge on traite cette question. Mmh. Et le deuxième écueil, c'est de tomber dans une sorte de descriptif abominable des horreurs qu'on puisse se produire, avec par exemple le descriptif de ce qu'il y avait lorsque les chambres à gaz s'ouvraient. Enfin, il faut trouver un équilibre. Et en fonction du public qu'on a devant soi, qu'il soit adulte ou d'ailleurs un public de jeunes élèves, lycéens ou étudiants, mais je pense qu'il faut également se dire que la micro-histoire, les trajectoires individuelles à l'échelle d'établissements scolaires, à l'échelle de structures comme les hôpitaux ou les entreprises ou les quartiers, les arrondissements, peut permettre d'attirer nos jeunes et d'aller ensuite vers la grande histoire. Vous voyez, le risque, c'est de commencer par des brassages de chiffres, 6 millions de morts. Voilà. Si on travaille par les trajectoires individuelles, si on travaille par la trajectoire d'un élève qui a l'âge, des gens à qui on parle, qui avaient l'âge, et qu'on voit des bulletins, on peut travailler avec eux. Ce qui n'empêche pas, et ça j'y tiens, je me souviens de débats assez vifs avec de collègues allemands du mémorial de Wannsee, que des photos de la Shoah, des fusillades massives par exemple, je pense pour des élèves de terminale ou des étudiants, doivent être montrées, parce que un des risques, c'est justement d'en arriver à une sorte d'imaginaire collectif qui soit totalement aseptisé. Or, un des problèmes des processus génocidaires, auxquels on est quand même confronté quand on enseigne, c'est de savoir comment on fait et qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont morts. Donc, moi, je pense qu'il faut mettre parfois les mains dans le cambouis, aborder des choses compliquées, tout en sachant que c'est pas l'horreur qui va marquer notamment les esprits, mais que la mettre complètement de côté, c'est mon opinion, je sais pas si tu la partages, mais c'est quelque chose de risqué. Donc, entre savoir et émotion, faut trouver un équilibre.
Pierre-Jérôme Biscarra, alors, est-ce que vous partagez cette opinion?
Oui, évidemment, il faut... Après, ça dépend à qui on s'adresse. Vous voyez.
Ça dépend des âges, en CM2,
Des âges et du public auquel on s'adresse, mais un public qui serait moins, qui aurait moins d'appétence pour ces sujets, un public difficile. Alors, j'aime pas l'expression choc émotionnel, mais il pouvait commencer par quelque chose qui les fasse un peu réagir, qui joue sur l'émotion, mais d'une émotion qui soit là pour les amener à la réflexion. Voilà. Et tout à l'heure, on a parlé des lieux, on a parlé de l'art. Il y a quelque chose d'essentiel dans l'histoire. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que les élèves ont le goût de l'archive. Que quand vous présentez aux élèves une archive un peu obscure et que vous leur donnez les clés pour décrypter cette archive, mais franchement, ça marche à tous les coups et ça marche pour les élèves de l'école primaire, ça marche pour des collégiens, ça marche pour des lycéens, évidemment ça marche aussi pour des enseignants. Quand vous avez une archive et que voilà, vous donnez les clés pour la décrypter, les élèves ils sont preneurs de ce type de dispositif. Voilà, j'en suis entièrement intimement persuadé.
Alexandre Bande, je voudrais qu'on dise un mot aussi de la force, et là il faut l'affirmer haut et fort, de l'interdisciplinarité. Cela a été dit en creux tout à l'heure, mais il n'y a pas que l'histoire comme point d'entrée pour comprendre cette mémoire de la Shoah. Il y a évidemment la littérature, le cinéma, les arts dans leur ensemble, les sciences sociales également.
La philosophie. À la Fondation pour la mémoire de la Shoah, où on observe et on étudie les dossiers de professeurs, de groupes qui veulent partir, on se rend compte que les projets transdisciplinaires sont de plus en plus fréquents entre l'histoire des arts, entre le théâtre, entre la philosophie, parfois la musique, dans les camps par exemple, l'histoire bien entendu, la littérature. Et c'est sûr que d'avoir un historien ou une historienne dans l'équipe, c'est important, mais il n'y a pas de raison que dans un établissement scolaire, le monopole soit celui des historiens ou historiennes. Et je pense que pour nos élèves et les générations futures qui nous intéressent dans nos échanges, là, plus encore que pour les adultes, cette interdisciplinarité a beaucoup d'importance.
Pierre-Jérôme Biscara.
Oui, alors sur ce côté interdisciplinaire, il y a un couple providentiel pour aborder cette question, c'est l'être-histoire en fait. Et peut-être quelque chose qu'on n'a pas évoqué, évidemment, puisque je travaille pour l'ONAC, et je pense à mes collègues référents régionaux mémoire, au directeur de l'ONAC, de tous les départements, c'est faire participer des élèves à des cérémonies relatives à la Shoah et les rendre acteurs de ces cérémonies. Voilà. Quand on explique exactement à quoi correspondent le sens des cérémonies, comment les cérémonies permettent de s'insérer dans la nation, dans la République, à la fois les valeurs qui sont dispensées et puis l'histoire à laquelle elles se réfèrent, là on marque aussi les esprits. Et il me semble que la voie des participations des scolaires aux cérémonies, c'est quelque chose d'essentiel et qu'il faut creuser.
La voix de Piotr Sivinski, il est le directeur du musée d'Auschwitz-Birkenau et il évoque les résonances entre cette mémoire de la Shoah et le monde contemporain.
Je crois que dans le monde dans lequel on vit actuellement, on a peut-être même plus besoin de la mémoire que ce ne fut il y a une décennie ou deux décennies. Le monde devient de plus en plus rapide, de plus en plus dangereux, de plus en plus incompréhensible, imprévisible. Lorsqu'on voit ce qui se passe au Proche-Orient, lorsqu'on voit la montée des extrêmes droites dans toute l'Europe, la montée des différentes xénophobies dans l'Internet, etc., l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Enfin, je crois qu'on a besoin de points de repère très stables. Il nous faut nous appuyer, en fait, à ce qui a constitué une des expériences les plus terribles et douloureuses dans notre histoire.
La mémoire, hein, et cette mémoire-là en particulier, celle de la Shoah comme base, comme fondement, Alexandre Bande, mais tout de même, comment faire en sorte que cette mémoire ne soit pas trop brouillée par l'actualité, hein, ne serait-ce qu'au Proche-Orient, l'actualité du Proche-Orient. On reprend, on lit souvent des termes qui font référence directe à la Shoah. Alors là, comment est-ce qu'on agit en tant que professeur, en tant qu'enseignant, justement, pour empêcher ces interférences, ce brouillage-là ?
Les empêcher, je pense qu'on n'y arrivera pas. Essayer de lutter contre ou de se positionner pour ne rien lâcher sur le terme génocide, par exemple. Je suis intervenu deux fois dans la journée, dans deux commémorations différentes, et je me suis permis de rappeler que, voilà, un génocide, c'est pas tout à fait ce qu'on laisse entendre dans d'autres situations qu'on connaît bien aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a un gros travail d'éducation, de transmission, qui continue à être important à effectuer. On ne joue pas sur les mots. Les mots ont un sens. Et donc, notre travail, nous, en tant qu'enseignants, ou en tant qu'historien, c'est d'essayer de faire en sorte que, malheureusement, ce qui circule, quand je dis malheureusement, parce que le ratio entre ce que moi je peux dire et ce qui circule pendant qu'on parle sur les réseaux sociaux et qui dirait le contraire est en ma défaveur, mais c'est pas pour autant qu'il faut arrêter, faut pas lâcher. Donc les mots, les termes et la mémoire de ce qui s'est passé n'est pas incompatible avec un jugement qu'on peut porter aujourd'hui sur ce qui se passe dans certaines régions du monde. Je pense à ces directeurs d'école primaire qui m'ont interpellé il y a quelques jours en me disant on a du mal à organiser la journée du 27 parce qu'on a des enseignants qui veulent pas commémorer Auschwitz à cause de ce qui se passe au Proche-Orient. Voyez. Et là, je pense que nous, notre rôle, c'est justement d'expliquer que l'amalgame, la comparaison dangereuse, vient tout perturber et que sinon qu'elle serve cette comparaison des intérêts politiques ou idéologiques, elle dessert le débat collectif. C'est mon propos, en tout cas.
Quand vous dites que des enseignants, en tout cas, quand vous avez rapporté l'idée que des enseignants ne souhaitent pas commémorer l'ouverture, la libération des camps nazis, comment est-ce que vous le comprenez ? C'est une peur, c'est de l'autocensure, c'est une difficulté à faire face à ces sujets parce que l'actualité elle-même est trop complexe ?
Non, pour être très clair, je pense que on en parlait ce matin sur le plateau d'une de vos collègues dans une autre chaîne, c'est que quand on s'expose et quand on traite et quand on développe cette mémoire, aujourd'hui, on se retrouve confronté à des discours qui nous laissent entendre qu'en traitant cette mémoire, on alimente Tsahal, on alimente l'activité de l'extrême droite israélienne. Vous voyez ce que je veux dire, c'est par voie, ça va pas très très loin en termes de raisonnement, mais c'est très 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 violent comme terme de formulation. Donc je dis pas que tous les professeurs qui se sont auto-censurés, ils sont peut-être pas si nombreux que ça.
Mais c'est choquant d'entendre qu'une toute petite minorité, hein, même si elle est infime...
Peut perturber, oui, tout à fait, c'est choquant. C'est choquant.
Une réaction, Pierre-Jérôme Biscara ?
C'est sûr que dans ce contexte, une expression pied noir qui on perd la chapette, on perd la tête, parce que c'est évidemment extrêmement sensible, mais c'est l'occasion de rappeler quand même que il faut établir les faits, rien que les faits. Évidemment, on les interprète, mais que sont les faits qui nous permettent de penser le monde commun et de rappeler un certain nombre de, aussi un certain nombre de définitions. Et c'est vrai que l'inversion victimaire qui a lieu, qui aujourd'hui occupe une partie de l'espace médiatique est quand même assez insupportable. Il faut le répéter et en tout cas revenir sur la question effectivement des définitions. Hein. Crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide, ça fait débat. Et moi, je crois que ce débat, on peut l'avoir avec les élèves, hein. On peut l'avoir avec les élèves, on peut l'avoir avec les étudiants. Et un de nos collègues, Yannis Röder, ce matin disait que lui...
Professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis.
Exactement, donc il disait, bah oui, j'ai le débat, et c'est parfois un peu vif, mais ça marche en fait, ça marche. On arrive à discuter, à créer un espace de dialogue, et le pari éducatif, il est là.
Alexandre Bande, on peut subir l'actualité, hein, mais on peut aussi tisser des liens, peut-être volontairement. Est-ce que c'est ce que vous faites, notamment peut-être pour parler de l'antisémitisme en France, qui croît, puisque l'année 2024 a vu des actes records, hein, au niveau de l'antisémitisme, hein, pour la deuxième année consécutive, avec 1570 affaires, dont un tiers explicitement lié à la question palestinienne. Est-ce que vous-même, il vous arrive de tisser des liens avec ce sujet-là ou d'autres peut-être qui traversent la société française aujourd'hui?
Eh bien, il est certain que dans une perspective d'enseignement sur le temps long, même en classe préparatoire, quand on a des étudiants sur deux ans, des programmes distincts, positionner l'histoire des Juifs dans la société française et européenne, c'est important, et pas seulement pour parler des moments où ils ont été persécutés. Donc ça peut être déjà une première approche, c'est-à-dire de faire réfléchir nos élèves, nos étudiants, à cet ancrage dans les sociétés occidentales d'une minorité juive qui a souvent été persécutée, et justement de leur rappeler les raisons qui sont récurrentes. La théorie du complot, la théorie des théories de l'antijudaïsme chrétien qui se superposent à des éléments matériels, contextuels. Ça peut être celle du moment de l'affaire Dreyfus ou du canal de Panama fin 19e. Ça peut être celle de l'affaire Stavisky dans les années 30. Ça peut être celle des conflits proche-orientaux depuis une trentaine, une quarantaine d'années. Et de leur montrer qu'il y a des invariants. Les invariants, et ça, les élèves, ils comprennent bien. Et ils réfléchissent bien sur les clichés, les images d'Épinal, le complot, l'influence dans les médias, l'influence dans la banque. Et donc, de tisser un lien avec ce qui peut arriver de ce discours. C'est-à-dire que les discours sont souvent suivis par des actes. Et les actes, c'est les violences physiques, ce sont les assassinats, et l'ACMÉ, bien sûr, qui a été la Shoah, est un cas particulier. Mais néanmoins, après la Shoah, à Kielce ou à Cracovie, on a tué des juifs. Et voilà, parce qu'ils étaient juifs, comme dans nos sociétés contemporaines, on tue des gens. Donc, sans tomber dans le piège de vouloir tout expliquer à l'aune de ce qui s'est passé il y a 80 ans, faire des liens entre les deux si c'est maîtrisé, enfin je prétends pas tout maîtriser justement, mais je veux dire, il faut que l'historien qui intervient ou l'enseignant ait également les reins assez solides sur une histoire contemporaine. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas toujours tout comparer, mais je pense qu'inscrire ça dans un temps long, et je vois des formations sur l'antisémitisme que je fais récemment qui ont une certaine audience, que justement les élèves eux-mêmes sont demandeurs en se disant, moi j'entends parler de la Shoah, mais ce qui s'est passé avant je connais pas, et ça marche bien.
Il faut dire évidemment aussi un mot des grands concurrents que sont les réseaux sociaux. Selon un rapport publié en 2022 par les Nations Unies, 17% du contenu TikTok public concernant l'Holocauste le niait ou déformait l'histoire. Il en va de même pour près d'un message Twitter sur 5 sur le sujet. 1 sur 2 du contenu sur Telegram remet également en cause ou tempère la violence de l'Holocauste. Pierre-Jérôme Biscara, qu'est-ce qu'on fait de cela en tant qu'enseignant ?
De l'histoire. On se bat pour faire de l'histoire. On mène la bataille sur la question de la méthodologie, l'établissement des faits, leur interprétation. Et puis on peut faire un parallèle. On peut se dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ici on peut faire un parallèle, mais au moment où explose l'affaire Dreyfus en France, vous avez une multitude de quotidiens à Paris, en région. Et Simon Epstein en fait une des explications, disant si l'antisémitisme prend autant à ce moment-là, c'est parce qu'il y a des vecteurs de l'antisémitisme qui sont puissants et qui sont cette presse quotidienne par centaines de quotidiens. Alors, ils ne sont pas tous antisémites, mais une partie d'entre eux le sont, et ça, c'est un amplificateur de haine. Mais je crois que là aussi, les élèves, à mon avis, on peut quand même les amener me semble-t-il, à faire la part des choses.
Alexandre Bande, il peut y avoir aussi un usage positif des réseaux sociaux, non, pour transmettre la parole, pour diffuser les témoignages, pour faire passer une pensée également.
Tout à fait, non, je ne fais pas partie de ces...
C'est pas ce que j'ai dit.
Je ne prétends absolument pas qu'ils soient obligatoirement négatifs. Il faut les connaître, il faut savoir qu'ils existent, et je pense que les utiliser, que ce soit fois par le biais justement de podcasts qui peuvent circuler, les témoignages, les interventions d'historiens, les caisses de résonance. Et je sais que certaines institutions sont maintenant sur TikTok justement pour toucher les plus jeunes. Oui, il y a un gros chantier sur ce terrain-là. Simplement, il faut quand même être honnête, c'est-à-dire que nous voyons les choses sous le prisme de la France et de l'Europe occidentale. Le monde, c'est 7,5 milliards, 8 milliards d'habitants. Et il y a des tas de régions du monde où circulent des idées et des propos sur ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale que on a bien du mal à combattre et qui ont encore beaucoup de succès. Je pense par exemple au protocole des sages de Sion, bien avant la Seconde Guerre mondiale. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que faut pas regarder trop, mais quand on sait ce qui existe, il faut se lever en se disant on a l'impression de faire quelque chose d'utile. Et moi, je le disais, je le redis encore devant vos auditeurs aujourd'hui, c'est que si on le fait, c'est peut-être pas toujours suffisant, mais c'est certain que si on le fait plus, ça serait quelque part bien pire.
Je voudrais qu'on dise un mot aussi, Pierre-Jérôme Biscara, de la difficulté croissante, notamment du fait de la situation géopolitique, pour accéder à ces lieux de mémoire. Bien des lieux de mémoire, notamment en Europe de l'Est, sont rendu de plus en plus difficile d'accès. Là aussi, comment est-ce que cela transforme peut-être la façon de transmettre la mémoire de la Shoah, mais au-delà, comment est-ce qu'on peut parler de ces lieux ?
Alors, il y a quand même un certain nombre de lieux. Auschwitz, quand même, une partie de l'ensemble des lieux polonais reste
cela, bien sûr,
reste accessible. C'est vrai qu'avant le conflit, moi j'ai beaucoup travaillé justement avec Patrick Desbois et ses équipes en Ukraine, et c'est vrai qu'il y avait par exemple le fait d'aller à Tchernivtsi, anciennement Tchernovitz, qui est la ville de Paul Celan, d'Aaron Appelfeld, où il y avait un foyer d'un judaïsme extrêmement fécond. C'est vrai que c'est terrible de se dire qu'on ne pourra pas y aller alors qu'on se préparait justement à y aller, d'aller par exemple à Odessa, je veux dire. Odessa, c'est c'est mythique. Et effectivement, ces lieux-là, ils sont fermés, mais il reste la Pologne, il reste aussi les pays baltes, il reste la Hongrie. Enfin, il y a quand même des lieux, il y a quand même beaucoup de lieux. Il reste Prague. On peut quand même. Non, c'est pas les lieux qui manquent, mais c'est vrai que de se fermer la Biélorussie, l'Ukraine et une partie de la Russie. C'est terrible. Moi, je rêvais d'organiser des séminaires pour des enseignants, pour des étudiants à Odessa, à Tchernovitz, à Minsk, à Mir. Enfin voilà, tous ces lieux qui nous sont fermés pour un certain temps.
Alexandre Bande, à l'heure où les derniers survivants disparaissent, la confrontation au lieu reste le lien le plus tangible, le plus puissant également pour transmettre cette mémoire de la Shoah.
Oui, sous réserve qu'on sache qui s'y est produit. Et il y a toujours cette ambivalence entre le lieu qu'on appelle lieu de mémoire où se sont déroulés des événements plus ou moins importants, donc un lieu d'histoire, et la manière dont l'historicisation du lieu s'est développée. Et donc, ce qui est important, c'est de se dire que ces lieux dont on parle, en particulier ce lieu gigantesque qui était le complexe d'Auschwitz-Birkenau et d'Auschwitz tout court, puisse être encore mémorialisé. Il l'a été, des progrès considérables ont été faits ces dernières années. La question des lieux est posée, la force des lieux se perçoit, mais elle ne se perçoit pas sur injonction, elle se perçoit quand on sait ce qu'on va y voir.
Merci beaucoup à tous les deux. Un remerciement chaleureux à vous deux. Alexandre Bande, vous êtes historien, professeur en prépa au lycée Janson de Sailly. Vous êtes intervenant au mémorial de la Shoah, membre de la commission enseignement de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et vous venez de faire paraître cet ouvrage intitulé Auschwitz 1945 aux éditions Passé Composé. Pierre-Jérôme Biscara, vous êtes historien, référent régional mémoire de l'Office national des combattants et victimes de guerre. Vous êtes ancien directeur pédagogique à la maison d'Izieux, puis de l'association Yahad Inunum. Vous avez publié Izieux des enfants dans la Shoah. Merci à tous les deux d'être venus ce soir dans Question du soir.
Merci à vous.